L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Écrire à la première personne du singulier et de la singularité, cornue et voix à peine déviée par le timbre étranger, rameut à nous tous les dangers symboliques. Toute femme écrivant qui s'avance ainsi hardiment prend le risque de voir combien son chemin est miné. Assia Djebbar se présente comme une femme écrivant dans cet extrait de ces voix qui m'assiègent. Elle a fait très tôt irruption dans la vie de lectrice de Maïssa Bey, qui lui a adressé son premier roman avec cette dédicace « À vous, Assia, qui m'avez ouvert les chemins de l'écriture ». Maïssa Bey nous livre dans ce recueil son rapport intime à cette figure majeure de la littérature algérienne de langue française et montre combien son œuvre est liée à l'histoire et à l'évolution de cette société, en livrant les clés secrètes des maisons algériennes, lieu des femmes où elles sont à la fois maîtresses et recluses. Je viens de vous lire la quatrième de couverture de Assia Djebbar, femme écrivant, l'autrice de ce livre Hommage, est dans Aéropage aujourd'hui pour en parler. Bonjour Maïssa Bey.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir et surtout que vous n'êtes pas venue seule, vous êtes venue accompagnée d'une charmante personne que je connais assez bien pour l'avoir croisée dans de nombreuses occasions. Bonjour Marie-Noëlle Arras.
Bonjour Nathalie Bouly.
Marie-Noëlle qui est avec vous, et on va en parler pendant l'émission, cofondatrice des éditions Chèvrefeuille étoilée avec qui nous travaillons très souvent. Et le dernier livre que j'ai eu le plaisir de chroniquer, de recevoir, c'est bien sûr Martienne de Janine Tesson. Voilà. Peut-être d'abord quelques mots sur vous, Maïssa. Vous êtes née et vous vivez en Algérie. Vous en parlez dans le livre de cette enfance en Algérie, dans le quartier du Ruisseau. Alors moi, ça m'a interpellée, voilà, Alger, puisque le quartier que je connaissais d'Alger avant, c'était Bellecour. Et comment Camus descendait, enfant du quartier de Bellecour, jusqu'à la mer. Vous nous en dites plus sur cette enfance algéroise, justement ?
Oui, je suis arrivée à Alger à l'âge de 9 ans, 10 ans, en fait, parce qu'avant, je vivais dans un petit village côtier, Ténès, très beau petit village. Et j'y ai fait, bon, je suis restée à Alger, j'y ai fait toutes mes études au lycée, ensuite à la fac de lettres françaises, puisque j'ai travaillé comme... J'ai choisi cette carrière-là à cause de mon amour pour la lecture et pour la littérature française.
Donc une carrière de...
De professeur de français.
Ben ça doit vous toucher parce qu'en ce moment, il y a assez d'actualité. Les fermetures des lycées français, il y a plein d'histoires comme ça.
Ah oui, en Algérie, oui, voilà. Oui, tout à fait.
Et vous parlez d'ailleurs dans le livre, qui est un livre hommage, plus qu'hommage, hein, on reviendra dessus, sur la personnalité d'Aïssa Djebbar. Mais vous parlez quand même, dans le livre, de vos lectures de jeunes filles. Et vous parlez justement, peut-être, pour mettre en balance ce que vous lisiez, c'est-à-dire des lits.
Hein. Oui, voilà. Oui, bon, l'éclectisme.
Et l'arrivée d'Aïssa, d'Aïssa dans votre univers.
Oui, oui, non, mais je lisais ce qui me tombait sous la main. Je lisais même des coupures de journaux que je découvrais comme ça. J'étais vraiment une boulimique de lecture et je pense que je me suis réfugiée dans la lecture parce que le monde dans lequel je vivais ne correspondait pas à mes attentes, ne répondait pas, mais il n'y avait personne pour répondre à mes questions. J'espérais trouver des réponses dans les livres. Alors je lisais tout et n'importe quoi.
Et quand on passe son bac, qu'on fait des études supérieures en Algérie, les auteurs qu'on vous fait étudier, c'est plutôt des auteurs français ou des auteurs algériens ?
Alors c'est un peu particulier parce que dès la sixième, vu mes résultats scolaires, j'ai été admise dans le plus grand lycée d'Alger, le lycée Fromentin à l'époque, qui était un lycée français, donc Descartes. Par la suite, après l'indépendance, il s'est appelé Descartes. Et donc j'ai fait toutes mes études dans ce lycée qui était un lycée français. Au vu de mes résultats, j'ai fait mes études d'ailleurs en internat et ensuite j'ai fait une licence de lettres françaises, donc j'étais dans la littérature, voilà,
française.
Française.
Et comment vous êtes née dans les années 50, comment une jeune femme en 70 peut dans ses études ignorer une partie de la littérature algérienne, justement.
Tout à fait. Mais ça,
c'est incroyable qu'on demande ça en Algérie, sur le territoire algérien. Vous faites des études et on vous demande d'ignorer une partie de votre culture.
Alors, il y a eu juste, si je dois donner des précisions, il y a eu juste un module, on va dire, on appelait ça comme ça, un module de lettres, pourtant dans une Algérie indépendante, qui était consacré aux auteurs algériens. Un seul module, alors que tout le reste était consacré à l'histoire de la littérature française, la production, je me rappelle, on faisait le nouveau roman, Robe Grillée, etc. On avait aussi, on étudiait le vieux français. C'était vraiment un programme destiné à nous faire entrer entièrement dans la littérature française.
Ça semble dingue.
Oui,
je trouve,
hein. Effectivement.
En 2005, vous obtenez le prix des libraires algériens pour l'ensemble de votre œuvre. C'est le moment d'en parler de cette œuvre, donc une vingtaine de parutions. Et ce qui m'a interpellée quand j'ai lu justement tous les titres de vos livres, c'est que vous êtes extrêmement... vous abordez tous les genres littéraires, c'est-à-dire qu'il y a du roman, mais il y a des récits, des nouvelles, de la poésie, même du théâtre. Vous aimez ça, vous balader d'un genre littéraire à un autre ?
En fait, j'ai commencé par le roman. Et pour moi, c'est la forme supérieure de la littérature. On pourra revenir, si vous voulez, là-dessus. Et puis ensuite, écrivant au moment où l'Algérie était plongée dans une guerre atroce, c'était les années 90, le terrorisme et tout, j'ai éprouvé le besoin d'écrire des nouvelles qui toutes reprenaient des moments entiers de nos vies d'Algériens en Algérie à cette époque-là. Et le théâtre, ça a été des sollicitations. C'est des personnes, enfin des metteurs en scène, des dramaturges qui sont venus me voir en me disant « on aimerait bien que tu écrives une pièce, etc. » Bon, j'ai refusé au début parce que je ne me sentais pas l'âme d'une dramaturge. Et puis finalement, je m'y suis mise et il y a eu beaucoup de sollicitations ensuite. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que je pense que la grande majorité de mes romans ont été adaptés au théâtre, ici en France. Hein,
d'accord.
Je parle d'ici. La plupart de mes romans sont... Le prochain va être joué à la Cartoucherie au mois de décembre. Et c'est une adaptation de mon dernier roman.
C'est toujours Mouchkine qui est à la Cartoucherie.
Oui. C'est, comment s'appelle le théâtre ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Le théâtre de l'Épée de Bois au mois de décembre. Ouais.
La première parution, c'est 1997. Donc c'est un moment où l'Algérie va un peu mieux.
Pas vraiment.
C'est la grosse période.
On était plongé dans l'horreur. Quoi.
Marie-Noël, vous étiez en France à ce moment-là ?
Oui, ou... je suis arrivée en France, je pense, en 92.
Ouais.
Je me suis repliée en France parce que, bon, voilà, c'était dangereux pour tous les Algériens, de toute façon.
À partir de quand ça a commencé à s'apaiser, alors ? Dans les années combien ?
À la fin des années 90, ouais. Années 90. À partir de 2000, on commençait à sentir l'étau se desserrer un petit peu. Et...
Tibérine, c'est ces années-là aussi, les moines, toutes ces histoires-là.
C'était je pense que c'est 97. Je ne suis pas très sûre, mais je pense que c'est 97. Ouais.
C'est vrai qu'on en a peu. Enfin, on n'en parlait pas tellement en France. Hein.
Oui, ça fait le sujet quand même de quelques-uns de mes romans.
Oui, c'est vrai que ça. Dans lesquels, par exemple, vous parlez de ça ?
Dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles d'Algérie, qui a eu le prix de.
Édité chez Grasset en 98.
Édité chez Grasset, qui a eu le prix de la Société des gens d'auteur. Chaque personnage de ces nouvelles est confronté à cette guerre. Et puis, il y a eu aussi le premier roman. Au commencement était la mère. Voilà, une fille est confrontée à l'horreur de la guerre et elle essaie d'oublier tout ce qui se passe autour d'elle. Quoi.
Ce qui est bien, c'est que c'est avec cette rencontre, j'ai envie de lire tout Maïssa Bey et tout Assia Djebbar. Là, je vais avoir du boulot. Vous publiez simultanément aux éditions de l'Aube en France, aux éditions Barzac en Algérie, toujours en langue française. Vous avez toujours écrit en langue française ?
Absolument. Ouais. J'aurais beaucoup de mal à écrire en langue arabe.
Ça serait difficile.
Ah, oui, très difficile, parce que je n'ai étudié l'arabe au lycée qu'en langue 1. Vous vous souvenez, quand demandait de choisir langue 1, langue 2, l'anglais, etc. Bon, moi, j'ai étudié l'arabe en langue 1 et je n'ai pas eu la chance d'avoir des professeurs suffisamment motivants, on va dire, pour me donner envie de découvrir la langue et la littérature arabe.
Et votre partie poésie, Donc vous l'écrivez aussi en français. Et vous n'auriez pas envie de la traduire en arabe ? Enfin, je pense à ça parce que cet été, j'ai rencontré au Voix Vive à 7, j'ai fait l'interview d'un poète, impossible de me rappeler son nom comme ça, algérien, et qui lui écrivait alors en anglais et en algérien. C'est-à-dire que les textes, et quand il a lu les textes en algérien, ça a apporté une espèce de dimension, comme il y avait une jeune fille ukrainienne qui a lu les textes en ukrainien et, et qui pouvait les lire en français aussi. Mais quand on parle la langue, en plus, la langue algérienne, elle est belle à écouter, surtout en poésie, quoi.
Ah oui, la langue arabe est magnifique, les poèmes, les poèmes en langue arabe,
c'est magnifique,
je trouve qu'à l'écoute et puis au sens, évidemment, c'est magnifique.
Et vous pourriez les traduire, vos poésies ?
Moi ? Ah non, pas du tout.
Ah, faut trouver,
je n'ai qu'un seul livre traduit en arabe, c'est ça en plus.
C'est dingue.
C'est le seul, Entendez-vous dans les montagnes, c'est le seul qui a été traduit en arabe en Algérie. Sinon, les autres sont traduits dans beaucoup d'autres langues, mais pas en arabe.
Avant de passer notre première pause musicale, on va parler bien sûr que vous êtes la cofondatrice des éditions Chèvre, Feuille, Étoilée, que vous y publiez des textes courts, du théâtre, des nouvelles dans la revue Étoile d'encre. Alors, je voulais vous demander en quelle année cette cofondation, mais je sais à peu près, puisque j'avais reçu Janine qui était venue nous présenter, vous avez sorti pour les 20 ans de la maison d'édition un très belle revue avec plein de textes et Janine était venue nous la présenter. Comment elle est née cette idée ? Vous étiez toutes les deux dessus ?
Vas-y, vas-y.
Allez-y, Marie-Noël.
En fait, oui, c'est la maison d'édition a été déclarée officiellement en janvier 2000, mais c'était un peu avant pour les 20 ans de Théâtrelle avec Jocelyne Carmichael, que vous avez peut-être connue. Et pour ses 20 ans de Théâtrelle, on avait invité Maïssa B, justement, pour son roman. Et là, on a l'habitude de le dire en mangeant des falafels.
À Montpellier.
À Montpellier, exactement, et avec Baja Traversac. On avait l'habitude, on s'est dit la parole des femmes. Alors à l'époque, on pensait beaucoup aux femmes algériennes, bien sûr, puisque c'était au niveau du terrorisme. On s'est dit, mais il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour leur donner plus la parole, et en tout cas, et la diffuser, donc par écrit. Et on a pensé à la revue d'abord, à la revue Étoile d'encre. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas se cantonner à une revue, entre guillemets, parce que ce n'est pas se cantonner non plus une revue, c'est important. Et on a créé les éditions en même temps.
C'est quoi la ligne éditoriale ?
C'est les femmes.
C'est ça. Et les femmes de chaque rive de la Méditerranée.
Des femmes, de chaque rive de la Méditerranée.
Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, on n'avait absolument pas les moyens de réaliser
de cette ambition, de ce rêve.
C'était vraiment un pari fou. Vous imaginez trois femmes en train de manger des falafels dans un restaurant et de dire on va fonder quelque chose, on va donner la parole aux femmes, une revue, et il a fallu se donner les moyens de...
Vous connaissiez avant quand même.
Oui,
puisque j'habitais à Sidi Belabès et nous là étions voisines d'abord, puis amies.
Vous aviez, vous aviez une complicité de femmes avec Benja aussi
Avec Benja, non, je l'ai découverte à Montpellier. Ici. Parce que déjà, je l'ai rencontrée avec d'autres femmes qui militaient en solidarité avec les femmes d'Algérie.
Après, passer de l'écriture à l'édition, enfin, c'est vraiment... l'édition, c'est pas facile, hein. Faut trouver les textes, faut être exigeant. Et la maison
le problème était là.
Des chèvrefeuilles est exigeante, hein. C'est vraiment pas une...
Voilà, c'était la condition sine qua non.
Voilà, c'est ça. Parce que trouver les textes...
Ça fait
profusion.
C'est très facile. On en recevait des dizaines.
Et on en reçoit beaucoup trop.
Bien sûr.
Mais après, voilà, c'est au niveau de la qualité.
Au niveau de la sélection, c'était... Alors, on n'était pas toujours d'accord, mais c'est ça, les maisons d'édition.
C'était passionnant.
C'était vraiment passionnant. Et il fallait vraiment... La qualité première, c'était que ce soit de la littérature. La poésie, bien sûr, mais en même temps, voilà.
Et Maïssa et moi, on a beaucoup travaillé à Belle Abbesse sur des textes, à les retravailler ensemble, à les corriger avant de l'envoyer aux autrices. On a fait un boulot, puisqu'on était
ensemble.
Moi, j'ai reçu, je crois que j'ai reçu... la plus étonnante que j'ai reçue, c'est sûrement Louise Apton. Vraiment, voilà, c'est un ovni, cette jeune femme. Oui. Hein, c'est vraiment un ovni. Alors, en ce moment, elle fait plein de sculptures. C'est magnifique ce qu'elle fait. C'est absolument incroyable. Mais j'ai un très chouette souvenir avec Maya R aussi, Alexa Fauché. J'ai l'impression qu'à chaque fois, et même la jeune femme qui est au-dessus de Valence et qui... Dumas, je crois, qui fait des dessins.
Valérie Dumas,
voilà. Oui. À chaque fois que j'ai rencontré des femmes, j'ai senti aussi... Alors, c'est un féminisme, bien sûr, que chez Raphaël Étoilé, il y a quelque chose de féministe, mais c'est un féminisme hindouiste, qui n'a même pas besoin de proclamation. Et ça, ça vous réunit toutes.
Absolument.
Même si, par exemple, Alexa Fauché, elle est un peu plus, voilà, que les,
oui, hein, plus
que certaines, voilà, plus radicales. Mais j'en pense que cet échange, c'était important aussi que vous ayez cette amitié féministe et féminine.
C'est le socle de la maison d'édition. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand on a fêté nos 10 ans ici à Montpellier, tout ce que les femmes ont témoigné, les autrices, elles ont dit, quand on rentre à Chèvrefeuille, on rentre dans une maison. Tu te souviens?
Oui.
Dar, en arabe. Mmh. Et ça a été vraiment dit d'une façon très profonde.
Et ce qui est chouette, je pense, par exemple, par rapport aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, qui est beaucoup plus militante. Qui est militante, d'ailleurs, qui a comme mission, c'est une maison d'édition qui a 40 ou 50 ans maintenant,
oui.
Et qui est rentrée dans une période de militantisme, MLF, etc., qui était beaucoup plus virulente, enfin différente dans le virus. Enfin voilà, je voulais vraiment parler aussi de cette maison d'édition.
Mais
qui fait
la condition sine qua non, je reviens là-dessus, c'était que ça ait une valeur littéraire et non pas une valeur militante.
C'est
vraiment
ça.
La valeur littéraire des textes qu'on nous proposait. On s'est fait des amis, mais on s'est fait aussi pas mal d'ennemis, voilà.
Bien sûr, dans
c'est
le nom. Hein.
Oui, bien sûr.
Et puis des fois, il y a un premier jet ou un premier livre qui est formidable, et puis après, on n'arrive jamais à en écrire un deuxième, un troisième,
voilà,
un quatrième.
C'est ça aussi. Ça
et
aussi.
De lui dire non, là, c'est pas abouti comme le premier.
Ouais, exactement.
C'est le premier titre que vous avez choisi pour nous, Maïssa, c'est Souad Massi, Raoui. Pourquoi ce choix? C'est une chanson qui vous touche?
Oui, beaucoup. Beaucoup. Et Raoui, ça veut dire celui qui raconte.
Voilà.
Celui qui raconte une histoire.
Eh bien, on écoute.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاو لك مجد ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بالك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
« Comment ne pas être ému par cette voix magnifique, cette tendresse de la musique de Souad Massi. J'en profite, comme on vient d'écouter, de remercier Mickaël d'être à la technique avec nous aujourd'hui. Merci Mika. On va tourner ensemble les pages du livre Maïssa, et quoi de mieux que de commencer en lisant les mots d'Assia Djebbar. Et Marie-Noël a gentiment accepté de prêter sa voix.
Toutes les premières tentatives pour les femmes arabes de vouloir à la fois sortir au dehors et dans la langue différente devenaient risque d'une double expulsion, que subissait d'une part l'écriture, même balbutiante, ravalée par les contempteurs masculins aussitôt à l'anecdotique ou au folklore, et d'autre part le corps parlant. Parler hors la chaleur matriarcale, hors l'antienne de la tradition, hors la fidélité, ce terme pris au sens religieux, écrire à la première personne du singulier et de la singularité, corps nu et voix à peine déviée par le timbre étranger, rameut face à nous tous les dangers symboliques. Toute femme écrivant, qui s'avance ainsi hardiment, prend le risque de voir combien son chemin est miné. Assia Djebbar, ces voix qui m'assiègent.
C'est un très bel extrait, merci Marie-Noël. Et c'est vrai que je trouvais joli de commencer l'entretien aussi autour de sa voix à elle, puisqu'elle nous a quittés en 2015. On va y revenir après quand on va parler plus longuement d'elle. Le livre, vous en parlez comme un livre hommage. Moi, j'avais presque envie de le dire que c'était un livre d'admiration. Et l'admiration, c'est un beau sentiment pour moi. Je trouve que c'est important d'admirer des créateurs notamment. Le livre commence... Vous parlez de vous et d'Assia, c'est-à-dire que le livre est court, hein, il fait une 80 pages, même pas, mais il y a beaucoup d'idées fortes. Voilà, c'est Marie-Noël, elle se marre, mais c'est vrai que c'est un livre court, avec des chapitres courts, mais plein de force dans chaque chapitre. Voilà, c'est un peu comme le livre de Lily Frick que vous écouterez la semaine prochaine, mais c'est un livre de 100 pages, mais qui en contient 1000. Voilà, et des idées à foison. Déjà, je voulais vous dire, et je vous l'ai dit en préparant, je ne la connaissais pas. Ça, c'est quand même un problème.
Ça semble, enfin, en tout cas pour moi, ça semble tout à fait, pour quelqu'un qui, je suppose que...
Oui, je suis immergée dans le livre.
Voilà, vous vivez dans les livres, au milieu des livres, et je suis très étonnée. Alors, on va commencer par dire que Assia Djebbar était quand même membre, elle a été intronisée de l'Académie française, ce qui n'est pas rien. Ensuite, et bien avant, elle a été membre de l'Académie royale de Belgique. C'est une personne qui a reçu de très nombreux prix, dont le Grand Prix de la Paix, qui est un prix qui équivaut pratiquement au Nobel, dont le nom a été cité je ne sais combien de fois pour le Nobel, et qui a enseigné aux États-Unis la littérature française, donc il y a quand même un poids dans cette littérature. Et ce qui est vrai, c'est que très peu de personnes... Alors, c'est pas pour vous dédouaner.
Non, du tout.
Mais en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Assia Djebbar. Il y en a qui n'ont connu l'auteur, enfin, la dimension de l'auteur, que lors de ses funérailles en 2015, quand elle est morte. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu. On met plutôt l'accent, je parle de l'Algérie, hein, on met plutôt l'accent sur ce qu'on a appelé, et je le dis dans mon texte, les pères fondateurs de la littérature. En citant Kateb Yassine, Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, Mohamed Dib. Voilà, là, c'est très confortable de citer les pères fondateurs de la littérature algérienne. Mais, on ne va pas dire les mères fondatrices, mais voilà, Assia Djebbar a occupé et occupe. Elle a publié un nombre incroyable de romans, je n'ai pas le chiffre. Elle a fait du théâtre, elle a fait et monté, écrit et monté du théâtre. Elle a fait des films, deux petits films, des courts-métrages. Et elle a écrit un opéra. Et elle avait une activité, dans le domaine de la littérature française. Et très peu de gens ont entendu parler d'elle. Moi, c'est quelque chose qui ne cessera de m'étonner.
C'est pas spécialement étonnant en Algérie. Hein. C'est un peu le même cas ici. Hein, enfin, même quand on parle des grands classiques, vous avez jamais George Sand dans les grands classiques, alors que l'écriture de George Sand est aussi formidable que celle de Flaubert ou de Balzac. Hein. Ça, c'est vraiment. Mm-hmm. Et il y en a certaines qui s'en sortent. Dans le nouveau roman, Nathalie Sarraute s'en sort. Mm-hmm. Ou maintenant, on sanctifie Duras, mais en disant bien quand même qu'elle était bien alcoolique. Hein. C'est-à-dire que voilà. Et puis on la sanctifie à travers l'amant, pas forcément à travers ses textes.
Pour tous les autres textes,
voilà,
oui.
Exactement. C'est pas clair. Enfin, moi qui suis une grande Duracienne, j'aime pas tellement des fois comment on en parle aujourd'hui. C'est important pour moi, je trouve, que vous ouvriez le livre pour nous expliquer tout de suite ce qu'il y a de tendre, de sororité entre elle et vous, même si elle est votre aînée, elle pourrait être votre mère, hein, d'à peu près.
Oui, à peu près, voilà. Oui.
Mais l'important, c'est, et vous ouvrez cette confidence et cette sororité par une rencontre assez incroyable.
Une anecdote,
oui, vous pouvez nous la raconter ?
Bien oui, écoutez, bon, je le dis sans arrêt que je cherchais partout des livres, désespérément des livres, et il y avait une bibliothèque dans notre quartier à Alger, au Ruisseau, et j'ai donc découvert des livres des auteurs algériens, entre autres, parce qu'il y en avait très très peu hein, sur les rayonnages de, c'était les années juste après l'indépendance de l'Algérie, et j'ai découvert un de ces livres qui s'appelle « Les enfants du Nouveau Monde », et j'ai lu ce livre très jeune, très très jeune. J'ai lu ce livre. Bon, l'impression qu'il m'a faite, voilà, elle est durable et je la ressens encore aujourd'hui, c'est-à-dire me dire qu'une femme pouvait ouvrir les portes des maisons, voilà, pour aller plus vite et raconter ce qui s'y passait à l'intérieur. Pour moi, c'était. Mais elle avait une audace, un culot. Pour moi, c'était quelque chose. Je vivais dans une famille très fermée, hein, très traditionnelle et traditionnaliste, dans laquelle la communication était très réduite et on ne parlait pas, surtout pas de ce qui se passait à l'intérieur des maisons. Donc ça a été une véritable révélation, cette lecture. Et puis, la deuxième anecdote qui est vraiment frappante et que je n'ai jamais osé raconter à Sia Djebar, plus tard, quand je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, c'est un jour, nous étions dans un centre de vacances sur les hauteurs d'Alger, et on voit arriver une femme avec son mari qui se met avec nous. Nous étions des enfants, pris en charge par un moniteur. Et le moniteur nous dit « Ah, vous savez, celle-là, c'est une Algérienne qui écrit des livres et elle s'appelle Sia Djebar. » Et je venais de lire son livre. Donc j'étais pétrifiée, là, pour moi.
Pétrifiée d'admiration.
D'admiration, de voir, et en plus de voir un auteur en chair et en os, parce que pour moi, les auteurs, c'était...
Et en plus, il faut le dire, si j'étais faire des recherches avec votre livre, elle était très très belle.
Elle était très belle, oui. Et donc, très grande, taille élancée,
athlétique,
tout ça, voilà.
Et
puis, chose en plus très inhabituelle pour une femme, de son âge, pour nous en tout cas, qui étions des adolescents, elle dit « Bon, ben écoutez, puisque vous faites une course, moi je vais courir avec vous, on va voir qui va gagner. Je me mets du côté des filles, parce que c'était filles contre garçons, et elle a couru avec nous. » Et voilà, c'est la première image que j'ai eue d'Assia Djebar. Et ce qui est aussi un petit peu étrange, c'est que je n'ai jamais osé lui raconter cette anecdote plus tard, quand je l'ai rencontrée.
Quand vous parlez de cette femme, moi je l'imagine cette scène, hein, je ne sais pas, Marie-Noël, quand Maïssa raconte cette scène où on la voit arriver dans le groupe de jeunes, où elle se met à courir avec ce beau corps et cette aisance, on sent une femme très très moderne. Est-ce que c'était quelqu'un qui était, par rapport aux femmes de sa génération, est-ce que c'était quelqu'un qui était justement plus libéré, plus moderne, qui avait déjà dépassé peut-être plus de problèmes? On va y revenir quand on va parler de la maison, des maisons justement. C'est très important tout ce que vous dites sur les maisons, sur ces femmes qui restaient dans les maisons.
Oui.
Elle sortait de la maison.
Eh bien écoutez, elle le dit souvent et elle l'a écrit dans plusieurs de ses livres, elle a eu la chance, tout comme moi d'ailleurs, d'avoir un père instituteur. Et son père a tenu à ce que sa fille fasse des études, ce qui était peu courant à son époque. Bon, à la mienne, c'était beaucoup plus habituel. Mon père aussi m'a inscrite et m'accompagnait à l'école de son vivant. Mais elle en parle énormément dans ses textes. Et donc, elle a fait des études. Elle a commencé à étudier dans son petit village. Ensuite, elle est allée au lycée à Blita. Et ensuite, elle a été admise en Cagne, à Paris. Et donc, elle a fait Cagne et Hippocagne à Paris, en littérature et en histoire, surtout histoire, je pense.
Donc, comme elle est née de mémoire en 36.
Oui.
Oui, c'était, elle avait 20 ans, 56, oui.
C'est
oui,
ça. Et elle était donc la contemporaine de Françoise Sagan.
D'accord.
Oui, je vous parle de Françoise Sagan,
oui, bien sûr.
Parce que Françoise Sagan venait de publier son livre
« Bonjour,
Bonjour Tristesse ». Et le succès phénoménal qu'elle a eu. Et Essa Djebbar a publié elle-même son premier livre à 20 ans et elle a eu beaucoup de succès. Donc beaucoup de gens ont parlé d'une Françoise Sagan algérienne. Il y en a même qui disaient Françoise Sagan musulmane. On a une Françoise Sagan musulmane. Bon, l'assignation toujours. Mais voilà. Et donc son premier livre, son premier ouvrage qui s'appelle La Soif a eu beaucoup de succès en France. Il a été publié chez Julliard.
Oui.
Et ensuite, elle est passée à tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose. Ça a été d'autres thématiques, d'autres styles. Et voilà. Et elle a construit son œuvre à partir de ces années-là.
On en parle, c'est la fiche Wikipédia, elle est un peu cruelle aussi. Hein. Bon, Assia Djebbar, nom de plume Fatima Zora.
Himalayenne.
Himalayenne, née en 36 à Cherchel. D'ailleurs, dans l'actuelle Vilaya de Tipaza. Moi, Tipaza, c'est Camus pour moi.
Ben oui, oui, oui.
Pas que pour moi, d'ailleurs. Et donc, morte le 6 février. C'est une femme de lettres algérienne d'expression française. Et elle obtient la nationalité française en 67. Double nationalité ou elle a laissé tomber?
Non, double nationalité.
Comment, justement, vous savez un peu, alors, parce que moi, comme je le voulais avouer, je n'ai jamais lu, comment elle a vécu ces années de 62, enfin, voilà,
Elle est rentrée en Algérie, hein. Elle est rentrée après la guerre d'Algérie, après l'indépendance d'Algérie. Ouais. Elle est rentrée en Algérie. Elle a même enseigné à l'université d'Alger. Elle a enseigné l'histoire. Ensuite, elle est repartie, puis elle est revenue. Et elle a fait comme ça des allers-retours entre l'Algérie. Elle n'a jamais vraiment quitté de façon définitive l'Algérie.
D'ailleurs, elle est enterrée dans son village de naissance.
Elle est enterrée dans son village natal, effectivement.
Village natal. Mmh. Le livre continue. Donc après, c'est la partie où vous parlez d'elle, elle est assez courte en termes de nombre de pages. Hein. Et après, vous partez sur l'autrice, sur l'écrivaine. Et avec cette phrase magnifique, l'écrivaine de passage, comme elle se définit, elle-même, écrivaine de passage, fugitive aussi. Comment comprendre ces mots? Comment vous les avez compris, par exemple?
Oui, effectivement. Bon, l'écrivaine de passage, pour moi, c'est ainsi qu'elle se définissait. Et ça a toujours reposé, ça m'a posé question. Pourquoi écrivaine de passage? Qu'est-ce que ça voulait dire?
C'est étrange. Hein.
Ce mot passage. Alors, on parle du passage d'une génération à une autre, etc. Et un jour, pour les besoins donc de cette conférence, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais effectivement, Essa Djebbar, écrivaine de passage, donc son expression, c'est parce qu'elle a franchi les seuils. Elle a été l'une des premières à franchir les seuils. Et quand je dis franchir les seuils, je parle spécifiquement des seuils des maisons. Non seulement les seuils du silence, etc., mais pour moi, c'est le seuil des maisons. Parce qu'autrefois, dans sa génération, la génération des femmes qui l'ont précédée, franchir le seuil des maisons, c'était déjà aller vers quelque chose qui n'était pas tout à fait habituel dans les mœurs et coutumes de l'Algérie de l'époque.
C'est d'ailleurs une partie, moi, qui m'a passionnée dans le livre. Par exemple, dans Les Enfants du Nouveau Monde, elle parle du vieux quartier arabe. C'est vrai que le quartier de Camus était un quartier moderne. C'était pas un quartier de Casbah, si?
Alors, c'est très compliqué, Bellecour. Ouais,
Bellecour, oui.
Bellecour, c'est un quartier qui avait été construit plus ou moins en périphérie, hein, alors qu'aujourd'hui, il est presque au centre. C'est presque au centre. Mais Bellecour, c'était un quartier pauvre. Hein. C'était des ouvriers, etc., qui travaillaient. D'ailleurs, il porte le nom d'un chef d'entreprise hein, qui avait une usine, Bellecour, Monsieur Bellecour.
Mais c'est vrai que quand on voit les photos d'Alger, où, moi, il y a un film qui m'a vraiment marqué, c'est le film de Visconti, d'ailleurs, sur L'étranger.
Oui.
En noir et blanc, avec Mastroianni, film qui est
Anna Karina.
Ouais, et Anna Karina, qui est un film. Et alors, du coup, on voit cet Alger avec ses belles maisons européennes, quoi. Et là, ce que dit Assia, c'est que le quartier qu'elle connaît, c'est dans le vieux quartier arabe, au pied de la montagne, les maisons à façade blanche, crépie, à la chaux se ressemblent, chaque demeure est le fond d'une impasse, où l'on fait halte après, qu'on s'est perdu dans un dédale de ruelles, de silence qui ne se trouble que de chuchotements. Là, c'est presque plus Pépé le Moco, hein, c'est-à-dire
la Casbah.
La Casbah, voilà. Oui. C'est toute cette partie.
C'est les quartiers traditionnels où étaient repliés, enfin, où vivaient les populations arabes,
toute
comme
cette
on les appelait
partie,
à l'époque.
C'est magnifique. Et toute cette partie qui est très descriptive hein, sur la construction de cette maison, ça ouvre autre chose dans votre livre, Maïssa. C'est que ça ouvre justement justement sur, parce que en parlant des maisons et de comment les vivait Assia, comment elle en parle, elle, sur le rôle de la femme, sur la femme qui sur le rideau devant la chambre, sur la femme qui se cache, sur le fait qu'il ne croise pas un homme, voilà. Et ça nous emmène à les femmes du dedans, qu'est-ce qu'elles ont, comment elles peuvent en sortir, comment elles peuvent être dehors. C'est passionnant, cette façon d'aborder un problème sociologique.
Oui, ça peut même paraître étrange. Oui. Aborder un problème sociologique sous l'angle de l'architecture.
De l'architecture, voilà. Exactement. Et oui. Vous pouvez nous en dire plus justement sur cette approche, parce que vous l'avez beaucoup travaillé dans le livre, ça.
Énormément, oui. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir faire comprendre à des gens qui ne connaissent pas ces modes de vie comment les choses se présentaient. C'est pour ça que j'ai pris le détour de l'architecture. Donc, il faut savoir que les maisons arabes, comme vous venez de le dire, ce sont des maisons qui sont construites autour d'un patio, avec ou dans lesquelles peuvent vivre plusieurs familles, ou alors une seule famille quand la famille était assez riche, et avec un petit couloir en chicane et qui donnait sur une porte extérieure. Mais les femmes n'avaient pas le droit de franchir ces seuils. Elles étaient confinées à l'intérieur. Quand il y avait plusieurs familles, l'espace commun, c'était la cour, Srefa en arabe, et c'était une vie comme les maisons de la Casbah. Oui. Exactement. Et quand on visite la Casbah, on voit cette espèce de cour intérieure qui n'était pas couverte, qui donnait ce... Enfin, on avait ce
qui sont plus modestes que les,
ciel.
Les riads de riad, comme on appelle ça. Les,
oui, tout hein, à fait.
De Marrakech, c'est pas ça. La cour intérieure, vous confondez pas, chers auditeurs. Hein, c'était pas ça.
Et donc, le mode de vie, c'était celui-là, des familles qui... Alors, les femmes étaient très solidaires, elles étaient toutes... Elles s'aidaient et tout. Et dès qu'un homme pénétrait dans la maison, il fallait qu'il demande l'autorisation de passer. Et avant d'obtenir cette autorisation de passer, les femmes rentraient dans les chambres et baissaient les rideaux qui couvraient justement qui protégeaient ces chambres. Donc cette idée de l'architecture des maisons traditionnelles d'autrefois en Algérie qui m'a donné l'idée conductrice de ce texte-là, oui. C'est-à-dire dire Assia Debbar. C'est une femme, comme toutes les femmes, c'était une femme qui était destinée au dedans et non pas au dehors. Sauf que elle a réussi, et en fait elle en parle parce qu'elle avait un père instituteur qui tenait à ce qu'elle... Elle a réussi à sortir au dehors. Et donc elle a eu une vie au dehors. D'ailleurs, elle a des pages extraordinaires sur cette sensation qu'elle a de marcher dehors. On a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Oui,
il faut comprendre
que son corps est comme ça,
que son corps se libère et tout.
Libère.
Donc elle a réussi à sortir de la maison. Elle est même allée vivre en France, faire des études en France, ce qui était exceptionnel à cette époque-là. Et puis par l'écriture. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce mouvement. Par l'écriture, elle est revenue dedans, puisqu'elle décrit la vie des femmes cloîtrées, silencieuses, recluses, etc., à l'intérieur de ses cours, à l'intérieur de ses maisons. Donc, en même temps, c'est une dissidente qui n'a pas eu le chemin de vie qu'elle aurait pu avoir sans son père. Et en même temps, elle y revient. Donc, c'est pour ça que elle parle, et j'en parle beaucoup, de l'écrivaine du passage.
Et de fugitive, parce qu'en effectif, elle, quand elle sort de la maison, elle est fugitive. Mais les femmes qui se cachent aussi sont des fugitives dans leur propre maison.
Oui.
Donc, tous les mots ont un sens autour de cette notion d'architecture. J'ai trouvé ça passionnant et formidable. J'aurais aimé qu'on aborde l'oralité, mais on avance un petit peu et je voudrais quand même parler de l'événement qui va nous retrouver vendredi. Il y a une chose quand même que je voulais dire, c'est le « nous ». Le « nous », puisque vous finissez le dernier chapitre, avant l'épilogue, vous l'ouvrez en disant « je voudrais finir en parlant de nous ». Nous, écrivaines algériennes, qui nous situons dans la lignée d'Assia Debbar, celle qui, je le dis bien souvent, nous a ouvert les chemins de l'écriture. Nous, écrivaines algériennes, allant vers ce « je » que nous avons eu tant de mal à mettre au monde. Mmh. Elle est forte, cette phrase.
C'est comme ça que je l'ai ressentie, parce que j'ai eu exactement la même hésitation dans la démarche d'écriture. Le fait d'écrire... Marie-Noël, elle est présente et elle a vécu tout cela avec moi. Le fait d'écrire, c'était le dévoilement suprême. et dire et se occuper une place qui normalement, même dans ma génération, à mon époque, n'est pas une place que l'on pense réservée aux femmes. C'est-à-dire, on a l'impression de se dénuder par l'écriture, et c'est souvent ce que ressentent les lecteurs. Je dis bien les lecteurs, pas mal de lectrices aussi. Il y en a même qui m'en ont parlé, des femmes qui sont proches et qui m'ont dit, mais enfin, comment oses-tu décrire et écrire et décrire la vie des femmes, les relations avec dans les couples. Tu as vraiment, enfin, en me faisant sous-entendre que je manquais de pudeur, de réserve, etc.
Et vous vous sentez pas seule, parce que quand vous parlez du nous, justement,
oui, justement.
Vous connaissez entre vous, vous fréquentez entre vous, vous écrivez entre vous. Entre femmes de lettres
rarement,
de cette génération.
Rarement, mais on se voit lors des rencontres littéraires. Et il y en a beaucoup qui vivent de ce côté-ci, de la Méditerranée. Mm-hmm. Moi, je continue à vivre en Algérie.
Oui, oui.
Et donc, ce n'est pas... C'est pas très, très fréquent.
À chaque fois rencontres. Qu'on parle, enfin, je pense par exemple à la Marocaine, qui a le prix Goncourt.
Leïla Slimani.
Ouais, Leïla Slimani, à chaque fois qu'on parle d'une grande écrivaine de l'autre côté, une grande autrice de l'autre côté de la mer... C'est parce qu'elle écrit en français. C'est rare qu'on lui reconnaisse la plume algérienne. Alors, forcément,
même
il y en
a. Traduction, oui,
oui
bien
même
sûr.
En traduction.
Mais il y en a, quelques-unes. Il y a des poétesses algériennes aussi qui écrivent en arabe. Et très souvent, les rencontres que je fais avec les autres écrivaines, c'est souvent des écrivaines qui vivent de ce côté-ci de la Méditerranée.
Voilà. C'est fou quand
on
même.
On n'en a pas énormément. N'est-ce pas,
absolument.
Marie-Noël, oui. On n'en a pas énormément en Algérie, il y en a. Il y a de très belles plumes en Algérie, mais elles sont... Enfin, moi, je fais confiance à la nouvelle génération.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant
de
passer à la deuxième pause musicale. Est-ce que vous sentez naître
une
nouvelle génération
d'autrices ?
Alors, on
ne va pas parler de mouvement, parce qu'elles sont quand même assez exceptionnelles. Mais moi, je pense à deux ou trois autrices, dont Samira Negrouche, qui est une poétesse extraordinaire, qui vit et travaille en Algérie. Je pense à Sarah Haider, qui est journaliste à l'occasion, mais qui est une très, très grande écrivaine algérienne qui vit en Algérie. Vous voyez, il y a quand même une émergence. De voix fortes. Moi, je parle des voix fortes. Parce que très souvent, les écrivaines algériennes se contentent. Ce n'est pas un reproche que je leur fais, parce que je pense que c'est un passage nécessaire, mais se contentent de revenir sur leur jeunesse, sur les conditions dans lesquelles elles ont appris à lire, à écrire, comment elles se sont battues pour devenir ce qu'elles sont, etc. Et voilà, après ça, il faut franchir le pas,
bien
voilà,
sûr,
comme l'a fait Assia Djebbar.
L'épilogue du livre est construit comme un rêve. Et d'ailleurs, vous l'illustrez dès le début par une très belle chanson de Brel, et qu'on va écouter peut-être avant de se donner des rendez-vous pour les jours qui suivent.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis. Et regarde par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante des rochers, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter, et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté.
Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans Aéropage, Aéropage consacré aujourd'hui à Assia Djebbar, en présence de l'auteur d'un livre sur elle, Maïssa Bey, et de Marie-Noëlle Arras, éditrice. Je voulais juste dire, après ce texte, je pense qu'on voit bien, ce court texte illustre bien tout ce qu'on vient de dire sur Assia. Assia marche dans les rues d'Alger, grandes enjambées souples, tête relevée, comme pour mieux sentir les odeurs de la ville. Elle les connaît bien. Elle a parcouru ces rues tellement de fois. Sur son visage, sur ses bras découverts, la chaleur encore douce du soleil et cet air marin qui lui manque tant quand elle est ailleurs. Elle s'arrête parfois pour reprendre son souffle. On la voit, cette liane, marcher. Hein, c'est magnifique. C'est magnifique. On va quand même parler de choses concrètes qui vont se passer dans les jours à venir. Déjà, peut-être, Marie-Noëlle, quelques mots sur la postface d'Aurélie. J'ai mis
Olivier.
Olivier. Et puis pourquoi avoir eu envie justement de partager cette passion pour Assia en tant qu'éditrice? C'est vrai que voilà, c'est plein de petits bouts, c'est plein de petites émotions. Et se dire, tiens, on va en faire un bouquin parce que ça va concerner, donner envie.
En fait, moi, je n'étais pas au courant du tout de ce. Parce que c'est arrivé juste avant le confinement où tu as été invitée à Lille. Et de ce qui est arrivé là, de ce podcast, je ne l'avais pas écouté. Et un jour, vive Facebook, vive les réseaux sociaux, Maïssa, donc il n'y a pas longtemps, l'été dernier, Maïssa a mis en ligne ce podcast qui est fait, donc qui est réalisé par les Parleuses, par l'association Littérature, etc., fondée par Aurélie Olivier, qui en est la directrice. Et donc, elle a imaginé, à travers les Parleuses, faire parler des écrivaines vivantes, d'écrivaines décédées, dans tous les domaines, dans tous les pays, en langue française. Et alors, on a fait donc des rencontres avec des gens, parce que c'était dans la médiathèque de Lille. Il y avait des personnes qui étaient là, avec un atelier juste avant. Et puis, elle en a fait des podcasts. Donc, on peut les retrouver. J'ai mis le lien et les écouter. Donc, moi, j'étais à ce moment-là en Corse. Je voudrais situer, parce que c'est aussi beau que l'écriture de Maïssa. J'étais en Corse dans les réunions de théâtre de Robin Renucci, dans la vallée du Giudani, et j'étais dans ma chambre, de fenêtre ouverte, devant une montagne, le Monte Padre, et je me suis dit, je vais l'écouter. Et je connais Maïssa, l'écriture de Maïssa, par cœur. J'ai été subjuguée. J'ai dit, vraiment, ce n'est pas possible que ce texte, enfin, que cette conférence à l'oral, reste aussi confidentielle. Parce que qui connaît les podcasts des Parleuses? Très peu de personnes. Donc, j'espère qu'à travers cette émission, il y en a qui vont aller voir et écouter surtout. Et donc, j'ai aussitôt réagi et fait un message à Maïssa. Il faut que ça devienne un livre. Parce qu'un livre, c'est quand même beaucoup plus diffusé. C'est quand même beaucoup plus... Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été un accouchement.
Un accouchement réussi, parce que moi, je me suis vraiment passionnée et par l'écriture de Maïssa et par le personnage, la personnalité d'Assia. Voilà, ça met les deux. Alors, tout ça, on va pouvoir le retrouver.
Absolument.
Vendredi, à la Gazette, à 20h.
Gazette Café.
Voilà. J'aurai le plaisir, ça me fait très plaisir de présenter, même avec mon œil de non-connaisseuse d'Assia, maintenant un peu plus quand même.
Voilà.
Et puis, nous parlerons d'Assia, nous parlerons de Maïssa, et bien sûr, vous pourrez rencontrer Maïssa, lui poser des questions, évidemment, trouver le livre, avoir une petite dédicace, c'est toujours agréable. Et puis, rencontrer ce personnage formidable d'Assia Djebbar. Donc, il faudrait presque qu'il y ait tous les livres livre de Maïssa, hein, et puis après tous les livres d'Assia, ça va faire une grande table. Et puis je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, comme j'étais très heureuse de partager celui-là, et de vous connaître enfin, Maïssa. Parce que bon, Marie-Noël parle de vous quand même, hein, même de l'autre côté de la mer. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues. Donc Maïssa Bey, Assia Gebhar, femme écrivain, évidemment aux éditions du Chèvrefeuille étoilé. Quelle autre maison d'édition, franchement, franchement.
Merci, Nathalie.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.